Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioVallée.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 38e émission de Biotope sur RDOA 107.5 FM et www.rdwa.fr et sur Radio Saint-Ferréol. Une émission consacrée au développement durable, à l'écologie et à l'économie sociale et solidaire et financée par BioVallée. Sur le plateau pour parler du retraitement des déchets d'entreprise.
Trois invités, donc avec moi Jean-Pierre Rouit, vice-président de la communauté de communes en charge du traitement des déchets. Kiouch Mehdi, qui a été embauché récemment pour justement travailler sur la réduction des déchets, et Philippe Méjean, chef de projet, plus spécifiquement chargé de la réorganisation du service en vue de réduire ces déchets. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, première question, pourquoi la communauté de communes du Diwa s'est-elle penchée sur ce problème du traitement des déchets d'entreprise ?
Oui, donc merci de nous inviter à participer à cette émission. Et donc, la communauté de communes du Diwa collectait des déchets professionnels hors cadre légal. Car depuis 1993, la collectivité doit facturer en fonction du service rendu. Donc la taxe d'enlèvement des ordures ménagères repose à 90% sur les ménages, alors que les professionnels produisent 30 à 40% des quantités collectées par la communauté de communes. Le service était inéquitable car seulement une faible proportion d'entreprises disposait des bacs dédiés collectés en porte-à-porte, environ 50 sur les 1700 bacs que nous avons sur le territoire de la communauté de communes. Et ces entreprises étaient les principaux producteurs de déchets. Donc la communauté de communes a souhaité inciter les professionnels à trier davantage leurs déchets et à les valoriser le plus localement possible. Et pour ce faire, le conseil communautaire, en date du 18 janvier 2012, a voté à l'unanimité cette mise en conformité réglementaire de la fiscalité sur les déchets. Et ainsi, on a créé un poste de chargé de mission, Mehdi, qui est aujourd'hui parmi nous. Donc sa mission, c'est la réduction des déchets. Voilà. Et puis à accompagner les entreprises du territoire, chose que Mehdi a menée de main de maître.
C'est une problématique qui n'est pas nouvelle quand même. Pourquoi tout d'un coup vous énervez sur ce sujet en fait ?
On s'est énervé calmement parce que derrière tout ça, il y a un coût. Donc la communauté de communes du Diwa a un budget spécifique OM. Et le budget aujourd'hui est à 1 600 000 euros. Donc avec la mandature où nous sommes actuellement, l'exécutif, le conseil communautaire a souhaité bloquer le budget à cette somme-là parce que les ménages n'en peuvent plus, il n'y a pas que les ordures ménagères à payer. Donc on a dit il faut qu'on se penche sur ce problème afin de stabiliser le coût. Et bon, après c'est sûr que le rêve c'est un peu que ça baisse, mais ça c'est pas gagné. Après c'est les actes de civisme que chacun doit avoir pour que ce coût n'explose pas encore une fois. Voilà.
Donc, quels étaient les principaux axes de réflexion de la CCD pour commencer à baisser ses coûts ?
Alors, les principaux axes que nous avons, alors il faut aussi préciser que nous, on est là tous les trois aujourd'hui, mais on travaille très activement avec la commission d'ordures ménagères. On a environ en fréquence une réunion par mois qui se tient à la communauté de communes du Diwa. Et puis après aussi, on a mis en place une réunion avec l'exécutif de la communauté de communes du Diwa pour que justement il y ait un échange, des échanges qui soient faits parce que la commission avance des pistes et bon, il faut que quand même l'information passe. Voilà. Et puis alors, vous savez qu'on a un partenariat avec le CITRAD et donc nos déchets sont centralisés à la déchetterie de Die. Et après, on a des camions qui transfèrent par benne, qui transfèrent sur Châtuzange-de-Goubet ou au centre de tri de Porte-les-Valences. Donc à terme, le transfert des déchets OM sera trié à étoile au centre de valorisation qui sera mis en service. Mais le transport, les camions, les bennes, ça a un coût. Alors comme on dit, au moins on en descend, au moins le camion est sur la route avec des tonnes, et plus le Diwa sera gagnant. Et aussi, on peut inciter les ménages, les particuliers, à s'équiper de composteurs chez eux. Moi, je ne connaissais pas trop le système au départ. Et puis, on s'aperçoit quand même que ça marche bien. Et puis, on peut économiser rapidement. Un exemple, le petit camping municipal de Rokubo. On a eu une personne cette année qui était très motivée. Et elle a fait un petit peu la police, entre guillemets, quoi. Et elle incitait vraiment à ce que les résidents du camping trient. Elle s'était organisée aussi pour faire un petit ramassage avec un âne. Et le côté pédagogique, les enfants, ça a été un succès et tout le monde était ravi. Mais ça repose sur l'idée qu'il faut être volontaire, voilà, sur le volontarisme.
Alors comment se fait-il que les entreprises soient passées entre les mailles du filet comme ça à ce point ?
Eh bien, les entreprises, on ne peut pas dire qu'elles soient passées par les mailles du filet. C'est-à-dire qu'à l'époque, la communauté de communes, c'était le syndicat d'Iwa. Quand le ramassage de la collecte s'était organisé, c'était un petit peu à la bonne franquette. Bon, ben tiens, moi j'ai passé le bac, ben, demain je t'en amène un, voilà. Et tout ça, ça a fait qu'après la régularisation, il y a eu un peu des bacs mis en surnombre. Et puis, c'est très facile aujourd'hui de remplir les bacs. Hein. C'est très facile. Et puis, nous, ça nous coûte pour les vider. Voilà, c'est surtout une obligation par rapport à la loi que nous sommes obligés de mettre en place et que tout le monde soit sur le même pied d'égalité.
Alors, Philippe Méjean, en tant que chef de projet, quelles seraient les pistes assez précises de réflexion que vous avez prises pour en arriver à ce résultat de baisser donc les tonnages, les coûts et la facture du citoyen ?
Alors, sur la maîtrise des coûts, on peut s'engager principalement sur la maîtrise des coûts. Le premier geste à faire, quand on achète un produit, de vérifier qu'il n'y a pas trop d'emballage et de suremballage qui va générer du déchet. Donc, les gestes appartiennent à tout le monde. Moins on en jette, mieux c'est. Ensuite, il y a ce qu'on apporte en déchetterie ou dans les bacs et qu'on peut garder chez soi. Ça s'appelle les matières organiques qui sont compostables. Donc, tout ce qui est déchets verts, tout ce qui est déchets de cuisine organique, ça peut se composter chez soi ou de plus en plus dans des lieux de compostage collectif. Nous en avons installé récemment à Pluviane. Il y en a 6 qui sont en test dans le Diois et c'est quelque chose que la commission ordures ménagères souhaite voir se généraliser. Donc, tout ça, ça ne passe pas dans le circuit, ça ne passe pas par les camions. C'est du 0 euro par kilo à l'investissement près, mais ce n'est pas très lourd quand on regarde la facture totale. Ensuite, dans ce que vous jetez, plus vous triez, moins ça nous coûte. Hein, puisque un déchet qui est transporté dans une déchetterie va coûter aux environs de 120 euros. On est en train d'affiner les coûts. Un déchet qui est apporté dans une colonne de tri, c'est la même chose. Donc, tant pour les entreprises que pour les particuliers, plus vous triez, plus vous portez en déchetterie, plus vous utilisez les colonnes de tri, moins ça coûte à la collectivité et donc moins c'est reporté sur les impôts. Donc ça, c'est à avoir en tête. Pour les entreprises, il y a eu une incitation très forte qui a été faite en disant mais pour ceux qui ont un service à domicile aujourd'hui, ce service ne peut perdurer qu'à partir du moment où vous en payez la juste part. C'est-à-dire qu'on a facturé les bacs en fonction du nombre de fois où ils étaient collectés, vidés, et on a intégré dedans l'ensemble du coût du service jusqu'au traitement. Les entreprises aujourd'hui peuvent toujours aller utiliser les colonnes de tri, ce n'est pas forcément facile pour elles parce qu'elles ont des quantités, mais aussi et surtout les déchetteries, et ça elles le font de plus en plus, donc à quantité équivalente de déchets jetés, nous ça nous coûte 2 fois moins cher. Pour celles qui ont choisi d'utiliser des bacs, ça fait une rentrée supplémentaire pour la collectivité, Mehdi vous en parlera tout à l'heure.
La problématique n'est pas différente de celle des particuliers quoi ?
La problématique est la même pour tous. Pour les entreprises, ça vaut comme pour les particuliers. La problématique de fond, c'est de savoir combien chacun jette. Si on veut se mettre en conformité avec la loi pour que les entreprises payent en fonction de ce qu'elles jettent, la problématique, c'est de savoir combien chacun jetait. C'est très facile pour ceux qui, aujourd'hui, ont un bac chez eux, pour ceux chez qui on peut mesurer les quantités qui sont évacuées ou en tout cas le nombre de fois où on passe. La problématique à venir, ça va être pour tous les autres, tous ceux qui ont accès aux bacs ouverts aujourd'hui à tous les vents, hein, les bacs de 660 litres qu'on a sur tout le territoire, les bacs verts, on est en train de réfléchir à une évolution générale du système qui permette de mieux contrôler l'accès aux bacs. Alors, ce ne sera plus des bacs, normalement. Hein, la commission propose des pistes aujourd'hui que sont les conteneurs semi-enterrés. Et là, le contrôle d'accès sera possible. C'est-à-dire que mécaniquement, vous ne pourrez plus jeter n'importe quoi, vous ne pourrez plus jeter des encombrants. Et peut-être que dans certains cas, il y aura des badges qui permettront à certains d'accéder et à d'autres pas. Voilà.
Est-ce que c'est rentable la collecte des déchets?
Alors la façon dont payent les entreprises, elles payent par rapport au foncier bâti, pas par rapport à la quantité. Donc c'est ce que disait Philippe, remettre une redevance incitative. Alors, c'est vrai que ces entreprises, on sait à peu près combien elles payent, mais nous, on n'est pas trop à même de le calculer, de le savoir, parce que c'est les services fiscaux qui gèrent ça. Et donc, c'est nous, le retour, Mehdi doit l'avoir, ce chiffre, le retour des...
Alors, je vais juste préciser, aujourd'hui, le service ordures ménagères est financé majoritairement par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui vient avec la taxe foncière. Donc on a la ligne TOM en bas de la page et elle représente aujourd'hui 1 295 000 euros pour 2012 et le service est financé en majeure partie par cette taxe. Ensuite, ça s'accompagne des recettes de valorisation de certains déchets, notamment je pense à la ferraille. Et à côté de ça, il y a aussi une redevance camping et centres de vacances qui sont facturés en fonction du nombre d'emplacements qu'ils ont. Et en plus, le financement aussi s'appuie sur quelques légères subventions et recettes soutien éco-organismes. Voilà pour ce qui est du financement du service.
Alors, ce qui fait que si on fait la balance entre les rentrées et les sorties, ça fait combien ?
Eh bien, au final, le budget est équilibré, mais on a autant d'entrées que de sorties.
C'est déjà pas si mal.
C'est le principe même. C'est un principe qui a été voté par le Conseil communautaire depuis plusieurs années, 2005 de mémoire, me semble-t-il, d'équilibrer les rentrées et les sorties. Tout ça pour que les ménages et l'ensemble des Diois se rendent compte que, en fonction des efforts qu'on arrive à faire, d'organisation collective et les efforts individuels, on peut peser sur notre facture.
Alors la variable d'ajustement, c'est bien sûr les ménages. Donc si les frais montent, c'est eux qui payent plus, en fait, pour l'instant.
Oui. Oui, et c'est tout l'enjeu de la réforme, c'est de responsabiliser tout le monde, de mieux répartir équitablement les frais entre les professionnels et les ménages. Ça, c'est le souhait aujourd'hui des élus qui est clairement affiché.
Parlant de fiscalité juste, si j'ai bien compris, les entreprises payent une taxe pour enlèvement des déchets en fonction du bâti. Mais alors, quelle que soit la toxicité, le traitement des déchets, il n'y a pas d'ajustement selon les déchets, selon la quantité. C'est particulier.
Alors, selon la toxicité, je dirais que sur les déchets dangereux, le service public n'est pas à même de pouvoir collecter les déchets dangereux des entreprises. La loi nous autorise à collecter seulement les déchets industriels banals et les ordures ménagères pour certaines entreprises. Mais on ne peut pas prendre justement en charge ces déchets dangereux. Elles ont des obligations, donc elles font appel pour la plupart qui produisent ce genre de déchets à des collecteurs privés qui peuvent les éliminer selon le cadre réglementaire.
Alors, quels sont les exemples d'actions que vous avez menées depuis 6 mois que ce programme a été lancé et qui ont débouché sur des faits concrets? Et qu'est-ce qu'on peut attendre alors de ces actions?
Concrètement, en quoi ça a consisté? Donc, on a déjà fait un état des lieux, et un diagnostic qui nous a donné la répartition fiscale entre ce qui était payé par les ménages, les entreprises et ce qui était effectivement produit par chacun de ces usagers. On a mis ça dans le cadre réglementaire. Donc on s'est aperçu que vu que la taxe était calculée en fonction du foncier bâti et pas proportionnellement à la production de déchets, les élus ont souhaité, entre guillemets, mettre à plat le service. Donc du coup, on a rencontré individuellement chacune des entreprises. On leur a présenté la démarche, comme quoi... aujourd'hui, la majeure partie de la fiscalité était assise sur les ménages et qu'elle, entreprise, avait une certaine responsabilité dans le sens où elle produisait 30% des déchets alors qu'elle payait que 10% de la fiscalité. En plus de ça, on s'est aperçu que la communauté des communes du Diois n'était pas dans les clous au niveau de la réglementation parce qu'aujourd'hui, une collectivité qui prend en charge les déchets d'entreprise se doit de faire payer en fonction du service rendu. Voilà, donc on leur a présenté ce cadre-là. En parallèle, le service aujourd'hui ordures ménagères, on est sur un système en point d'apport volontaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ménages se déplacent pour aller jeter leurs déchets. Par contre, certaines entreprises, elles, avaient des bacs à domicile. Donc du coup, ça nous a permis de proposer une facturation en fonction des quantités qui étaient collectées et de la fréquence de collecte. Du coup, on a mis ça en place... à partir du 2 avril 2012. Et suite à ça, donc, il y a un tas d'actions qui ont été mises en place. Donc, on a déjà fait l'état des lieux avec chacune des entreprises de manière individuelle. Donc, à savoir les quantités qui étaient produites par chacune. Donc, on s'est appuyé sur le nombre de bacs qu'elles avaient et puis le nombre de fois où on passait les chercher. Et bien sûr, sur le type de déchets qu'elles produisaient. Donc, on a vu que certaines entreprises avaient 5, 6, voire 10 bacs et qu'elles produisaient majoritairement du carton. Donc le carton, je vais m'appuyer sur cet exemple-là, c'est un déchet qui est valorisable. Donc si demain, on leur demandait de payer pour 10 bacs de carton, un, effectivement, c'était des rentrées fiscales pour la communauté de communes du Diois, mais derrière, ça faisait une charge supplémentaire pour les entreprises, alors que c'est un déchet qui peut être valorisé. Donc on les a sensibilisés là-dessus. Et certaines, d'ailleurs, se sont équipées de presse à carton et se mettent à vendre le carton. C'est à peu près 100 à 150 euros la tonne. Alors qu'auparavant, si on n'était pas allé les voir individuellement et qu'on s'était juste appuyé sur la facturation seulement, ça aurait pu être un coup de massue pour elles. Donc l'idée, c'était vraiment de les responsabiliser là-dessus, de voir ce qu'elles produisaient et puis de voir comment elles pouvaient justement les valoriser. Donc dans ce cadre-là, pour cette entreprise, elle s'est retrouvée avec finalement zéro à payer et des recettes supplémentaires.
Et ça, c'est un mouvement de fond ou c'est quelques entreprises isolées ?
Alors ça, c'est bien sûr, c'est dans le meilleur des cas, c'est quelques entreprises isolées. Mais pour la majeure partie, hein, on a vraiment diminué les quantités produites. Donc aujourd'hui, il y a 10 entreprises qui ont conventionné. Donc il y a 50 entreprises à qui on a demandé de payer. Il y a 80 bacs qui ont été retirés. Mais au final, il y en a 10 qui ont conventionné. Alors pourquoi 10 qui ont conventionné ? Parce que ces 10-là avaient besoin d'un service spécifique de collecte, hein, de par les quantités qu'elles produisaient. Et puis d'autres, ce n'étaient pas des ordures ménagères, donc ils n'avaient rien à faire dans ces bacs. Du coup, on les a redirigés vers les déchetteries. Et vers les déchetteries, comme vous a dit Philippe tout à l'heure, c'est un déchet qui est deux fois moins cher.
Et voilà. Puis dans les déchetteries, c'est dispatché selon le type de...
Alors, on part sur le principe où quand vous arrivez en déchetterie, vous pouvez déposer l'ensemble de vos flux de déchets et vous avez l'obligation de trier parce que le gardien veille à ça.
Tu as des exemples concrets d'entreprises d'Iwas qui ont suivi le mouvement là ?
Alors, effectivement, j'ai quelques exemples. Donc, je vais m'appuyer sur DEA, qui est une entreprise qui travaille dans le domaine industriel, Surdi, qui auparavant avait à peu près 3 à 4 bacs qu'on collectait 2 à 3 fois par semaine. Donc je les ai rencontrés. On a regardé chacun des déchets qui étaient produits et on s'est aperçu qu'il y a un certain nombre qui étaient valorisables. Donc du coup, ils se sont équipés de bacs suivant le flux de déchets. Ils avaient des câbles électriques, ils avaient du plastique, ils avaient du papier, du carton, etc. Et tout ça, c'était des déchets qui pouvaient être et valorisés parce que revendus. Donc, ils ont contractualisé avec des prestataires privés qui viennent leur récupérer la ferraille, le carton, etc. Et pour le reste, qu'on appelle déchets résiduels, eh ben, ils ont conventionné avec nous. Donc aujourd'hui, DEA, on leur collecte un bac de 240 litres une fois par semaine, alors qu'auparavant, on leur collectait 3 bacs de 660 litres, 2 à 3 fois par semaine selon les périodes. Donc on peut dire qu'elles ont, ont divisé pratiquement par 8 leur production de déchets. Donc c'est une économie pour elles, parce que si elles avaient conventionné dans le cadre de 3 bacs, 2 à 3 fois par semaine, ça aurait eu un coût non négligeable pour elles, alors qu'aujourd'hui, elles ont conventionné pour beaucoup moins et le reste est valorisé. Donc c'est entre guillemets du gagnant-gagnant, je dirais, où c'est une économie pour la collectivité et une économie ou un non-surcoût pour ces entreprises.
Y aura-t-il d'autres entreprises qui auraient fait des efforts significatifs ?
Oui, alors je vais citer peut-être deux autres entreprises de la grande distribution. Donc la première qui est Intermarché, qui auparavant avait 10 bacs qu'on collectait 6 fois par semaine. Donc on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de déchets organiques ou fermentescibles, on peut les appeler comme on veut. Donc je les ai rencontrés, on a regardé ce qu'elles produisent. Voilà, donc il y avait beaucoup d'organiques, de restes, de déchets qui arrivaient, de produits de consommation qui arrivaient en fin de date. Donc du coup, elles avaient normalement, elles étaient soumises à une certaine réglementation. Donc pour ce type de déchets, elles ont conventionné avec des entreprises privées pour les faire valoriser selon la réglementation. Mais en plus de ça, on s'est aperçu aussi qu'il y avait quand même derrière une certaine réglementation. Aujourd'hui, une entreprise qui produit plus de 1100 litres de déchets d'emballage a obligation de les faire valoriser. Donc une entreprise qui dispose de plus de 2 bacs de carton a obligation de les faire valoriser ou par la collectivité qui les prend en charge et qui les fait valoriser par ses circuits ou auprès d'un opérateur privé. Donc aujourd'hui, Intermarché, c'est 2 bacs une fois par semaine. Donc entre 10 bacs 6 fois par semaine et 2 bacs une fois par semaine, il y a une grosse différence là encore.
Qu'ont-ils fait de leurs déchets organiques alors ?
Alors sur les organiques, c'était surtout les déchets, les produits qui arrivaient en fin de date, et bien ils les mettent dans des caissons qui sont collectés par une entreprise privée et qui sont retraités selon la réglementation en vigueur. Alors je pense qu'ils sont ou incinérés ou enfouis, mais ils ne passent plus par le service public.
Capsule. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Je suis avec Monsieur Morales, responsable administratif d'Intermarché, qui a mené au printemps une opération pour essayer de mieux gérer les déchets qui sont produits par Intermarché. Monsieur Morales, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les actions que vous avez menées pour mieux gérer vos déchets, justement ?
Alors, déjà dès à présent et depuis plus de 10 ans, tout ce qui est déchets carton et déchets plastiques sont valorisés par le groupement et sont récupérés via une filiale du groupement qui s'appelle SILV. Les déchets viande, eux, sont récupérés par une société qui gérait tous les suifs précédemment. Et depuis le printemps, on a opté, suite à la réorganisation de la décharge via la communauté de communes, pour, dans un premier temps, tout ce qui est fruits et légumes est récupéré par un paysan qui nourrit ses bêtes avec. Et tout ce qui est autres déchets organiques est récupéré par une société qui s'appelle de mémoire Sotramax, qui, elle, revalorise derrière dans un centre de traitement sur la région lyonnaise, je crois, tout ce qui est déchets organiques. Donc voilà, aujourd'hui, notre manière de valoriser et de traiter le poste déchets.
Donc vous avez pu constater une diminution des déchets emmenés dans les bennes.
Aujourd'hui, on a réduit nos dépôts en décharge d'à peu près 80%. Il ne reste que du polystyrène ou des j'allais dire, oui, c'est essentiellement du polystyrène qui va en décharge ou bien d'autres déchets qui ne sont pas valorisables.
Alors, est-ce que ça a été difficile à mettre en place ? Est-ce que ça a nécessité que votre personnel soit mobilisé pour cette opération ?
Alors, il a fallu un peu plus de mobilisation que par le passé, puisqu'on était capable déjà de traiter le carton et le plastique. Aujourd'hui, il y a différents box qui sont attribués à différents déchets et chaque responsable de rayon est obligé de trier ces déchets. Donc c'est une gymnastique qui était un peu compliquée au départ, mais qui aujourd'hui est bien intégrée.
Il n'y a pas eu de point de blocage particulier ?
Non.
Est-ce que ça vous a coûté en termes d'argent et de temps de travail, donc, justement ?
Alors, un petit peu plus de temps de travail, bien sûr, une perte de productivité, et forcément un coût plus onéreux, même s'il y a de la récupération, que ce que représentaient les coûts de décharge via la communauté de communes.
Parce que vous avez conventionné, vous avez un contrat particulier.
Alors, on a un contrat particulier où on a limité, j'allais dire, nos box via communauté de communes pour justement ce qui n'est pas récupérable qui va en décharge. Et à côté de ça, on a d'autres box qui passent justement par cette société qui, elle, va regérer le traitement des déchets organiques. Le carton et le plastique restent toujours, puisque nous étions déjà équipés avec deux presses, une presse pour le carton, une presse pour le plastique, qui fait des balles et qui sont récupérées par le groupement Intermarché lors des livraisons.
Vous avez une idée du coût que ça représente pour Intermarché à peu près, tout ce recyclage ?
À peu près annuellement, le surcoût est de l'ordre de, on peut dire, une dizaine de milliers d'euros.
Alors, si d'autres entreprises dans la distribution voulaient se lancer, est-ce que vous pourriez donner un contact
pour... Alors, on pourra donner le contact pour ce qui est déchets organiques. Par contre, pour ce qui est carton et plastique, purement un interne au niveau du groupement Intermarché, donc ça sera difficile. Mais pour tout ce qui est déchets organiques, ce n'est pas un problème.
C'est-à-dire, c'est vous ?
Oui, vous prenez contact avec l'Intermarché de Die, on communiquera les coordonnées de la société. C'est une société privée, donc il n'y a pas de souci.
Monsieur Morales, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Je vous en prie.
Merci, au revoir.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Je vais rebondir aussi sur ça. Donc prochainement, je devrais rencontrer l'accueil de jour et nuit. La démarche, alors ça s'appelle du glanage. L'idée, c'est de montrer aux entreprises qu'on est encore là et qu'on est, on cherche à les aider à réduire leur production de déchets. Donc ce qui est possible pour elles, c'est que lorsqu'elles ont des aliments qui arrivent en fin de date, elles ont la possibilité de se faire défiscaliser sur une partie de leur chiffre d'affaires si elles les mettent à disposition d'une association caritative. Donc on va travailler dans ce sens prochainement avec l'accueil de jour et nuit.
Ça, c'est une mesure locale, c'est pas national, si ? C'est national ?
Alors non, ça c'est, oui, c'est tout à fait, c'est national. Donc toutes les entreprises de la grande distribution et qui produisent des déchets alimentaires ont la possibilité justement de bénéficier d'une exonération fiscale lorsqu'elles se mettent en relation avec des associations caritatives.
Voilà, donc les exemples sont en train de se multiplier, hein, puisque vous avez eu là deux entreprises, mais d'autres s'équipent de presse à carton et à plastique pour faire des balles et valoriser ensuite ces balles haute densité de plastique et de carton dans des circuits commerciaux. D'autres, comme les campings, sont intéressés pour développer le tri sur leur site. Donc nous font des appels du pied régulièrement. On est en train de réfléchir à la systématisation des points de tri, y compris
alors,
camping. Et pour ceux qui le souhaiteraient, la mise en place de compostage. Donc on développe à cette heure, tous azimuts, toutes les actions qui permettent de réduire la facture globale ou en tout cas de la maîtriser. Hein, puisque pour développer ces actions, on va devoir investir dans un nouveau système de collecte, peut-être même dans une amélioration de nos déchetteries. On est en train de regarder qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire. Et du coup, on proposera un service qui, en fonctionnement, sera moins coûteux et qui sera surtout moins sujet aux augmentations tarifaires. Puisque ces dernières années, ce qui nous a vraiment coûté et ce qui a augmenté le plus fort, ce sont les prix de traitement des déchets que nous envoyons à l'extérieur du territoire et que nous ne trions pas. Pour le reste, tous les frais de fonctionnement classiques, frais de personnel, frais de carburant, frais de mécanique, etc., sont des frais qui sont maîtrisés, qui ne dépassent pas chez nous, en moyenne, le coût de l'inflation. Voilà.
Et vous avez des objectifs un peu quantifiables ou vous savez qu'est-ce que vous pourriez gagner encore en grattant un peu ?
Oui, sur l'ensemble du système, en changeant de mode de collecte, on sait qu'on peut faire basculer, allez, de 25 à 50% la masse des déchets. Ça, c'est les statistiques nationales, hein, mais on peut faire basculer de 25 à 50% les déchets qu'on met classiquement dans nos bacs ordures ménagères vers des circuits de tri ou vers les déchetteries. Et ça, c'est très important, puisqu'un déchet qui coûte 290 euros, vous le transformez d'un coup en un déchet qui vaut 120 à 150 euros.
Oui, donc je voudrais préciser ce qu'a dit Philippe. Là, c'est qu'une tonne de déchets non triés, collecte, transfert et traitement nous coûte aujourd'hui 290 euros la tonne. Et à l'inverse, donc par ailleurs, une tonne de déchets triés coûte 120 euros la tonne. 120 euros la tonne et un déchet trié coûte donc moins cher et en plus, il peut être valorisé.
Le revenu de la valorisation est intégré dans vos budgets ?
Oui.
Oui, on a des retours.
D'accord, donc normalement, ça apparaît quelque part dans le budget, donc vous savez. Et
il est compris dans les 120 euros.
Il est compris.
Quand on vous dit 120 euros, c'est qu'on a enlevé la valorisation. On a pris les coûts de collecte, les coûts d'expédition et on a enlevé la recette qui nous a été versée.
Oui, je voulais juste rajouter une chose. Donc sur les principes, finalement, c'est de remplacer le déchet qui coûte cher par du déchet qui coûte moins cher, tout simplement. C'est un peu ce qu'il faut retenir. Voilà. Trier moins, trier plus et jeter moins.
Ça n'empêche pas d'essayer de ne pas produire de déchets. On en revient au début.
Tout à fait. Eh bien, messieurs, merci d'être passés à la radio pour cette émission Biotop, qui est donc la 38e du nom, avec ce sujet du retraitement des déchets entreprises. Merci d'être passés et
merci.
À bientôt.
Merci
au revoir.
À vous.
Au revoir. Au revoir.
Merci, au revoir.
Biotop. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.
Biotop. Un programme soutenu par BioValley.